Bonjour et bienvenue à tous une fois de plus dans cet amphithéâtre. La semaine dernière, nous avons examiné d'assez près l'idée que l'on trouve formulée dans l'histoire des Han occidentaux, donc le Hanshu. Cette idée qui a été retenue par toute la tradition chinoise ultérieure, selon laquelle le texte du Leyu, donc des entretiens, serait le résultat d'une transmission orale directe de l'enseignement du maître Kong, donc à ses disciples les plus proches, donc ceux qu'on appelle les tizi, ceux que vous aviez donc ceux à quoi il était fait allusion donc dans ces passages que nous avons lus la semaine dernière, transmission qui s'est trouvée à son tour consigné par écrit, soit par certains de ses mêmes disciples, soit par des disciples de ses disciples ou des adeptes en dehors du cercle intime et restreint autour du maître. Donc ces disciples de disciples, disciples indirects, disons, il semblerait qu'ils soient désignés sous l'appellation de menren, c'est-à-dire donc les gens qui viennent à la porte du maître. Distinction est bien marquée dans cette peinture dont vous voyez tout de suite qu'elle est de date tardive, elle est d'époque Ming. Mais vous voyez que vous avez de manière clairement distinguée, donc en haut, le maître. D'ailleurs, en fait, on pourrait penser à la scène du sermon sur la montagne, en quelque sorte. Vous avez donc le maître en haut d'une colline avec les. Quelques disciples proches et fidèles et plus bas donc ceux qu'on pourrait identifier comme les menren, c'est-à-dire donc les disciples indirects ou plus éloignés. Alors cette conception de la composition du leyu comme processus de transmission continue depuis les paroles mêmes du maître, ce qu'on pourrait appeler en latin les ipsissima verba, cette conception s'est perpétuée donc depuis les Han, donc pendant deux millénaires. Et elle a été implicitement au fondement de toutes les interprétations d'ordre philosophique qui se sont développés et multipliés au cours des siècles en Chine, puis, comme nous l'avons vu, à partir des 17e, 18e siècles en Europe, grâce notamment à la médiation jésuite, et puis ensuite, plus tardivement, donc vers la fin du 19e et pendant tout le 20e siècle, dans le monde anglo-américain. Et cette conception, on peut dire qu'elle est encore largement entretenue, comme nous allons le voir, par les commentateurs modernes. Donc c'est une conception qui a quand même la vie assez dure. Alors, le modèle théorique de la construction des textes anciens et du leyu en particulier, qui a prévalu depuis quelques siècles jusqu'à aujourd'hui, peut être qualifié sommairement de cumulatif ou d'évolutif. Il s'agit en d'autres termes d'un modèle de construction qui n'est pas toujours naïvement linéaire, mais qui reste de l'ordre du continu. Alors, ce modèle cumulatif ou évolutif, bien qu'il ait été décliné sous toutes les formes possibles et imaginables, et même s'il a atteint, comme on va le voir, de très hauts degrés de sophistication, ce modèle reste fondamentalement celui donc d'une sédimentation ou d'une stratification textuelle. Ainsi donc, le texte du Lunyu, tel qu'il nous a été transmis et tel que nous le connaissons, ce que les érudits appellent, toujours en latin, le textus receptus, textus receptus, ce texte serait donc constitué d'une superposition de strates qui se seraient accumulées au fil du temps et qui ont fini par former ce que l'on appelle en pâtisserie un millefeuille. Alors, pardon de cette allusion gourmande dans un contexte aussi sérieux et austère. Mais je pense que tous les gourmands parmi vous voient tout de suite ce dont je veux parler, donc le millefeuille, cette stratification donc horizontale. Alors, ce modèle a été proposé en Chine, semble-t-il, dès l'époque Song, hein, c'est-à-dire donc dès le début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, hein, donc au XIe, XIIe siècle, mais il a été clairement développé et explicité au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment même où les jésuites commençaient donc à assurer cette fameuse médiation ou première mondialisation de Confucius en Europe. Donc, ce modèle de stratification textuelle a été donc très clairement explicité par deux grands lettrés et exégètes japonais, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'ils comptent parmi les meilleurs connaisseurs de la littérature chinoise, avec un point de vue souvent plus distancié et critique que celui de leurs homologues chinois. Je crois qu'on ne pourrait pas insister suffisamment sur l'importance donc de cette, on pourrait dire, sinologie japonaise. Alors, je me contenterai pour l'instant de citer donc les deux noms les plus connus de cette période des XVIIe, XVIIIe siècle, à savoir donc le premier en haut, donc Itō Jinsai, qui a vécu de 1627 à 1705 et qui est l'auteur donc d'un Rongo Kogi. Hein, si vous vouliez prononcer à la chinoise, ce serait le Lunyu Kui, c'est-à-dire donc la signification ancienne du Lunyu, donc des entretiens, ouvrage donc qui date de 1683. Et bon, c'est évidemment une pure coïncidence, mais cet ouvrage est à peu près contemporain donc du Confucius Sinarum Philosophus, donc cette première grande traduction en latin de portion substantielle donc, du corpus confucéen donc, par les jésuites, hein, donc, qui a ouvert, on pourrait dire, la littérature canonique chinoise donc, au public, aux élites européennes. Le deuxième nom est également très connu, c'est celui de Ogyo Sorai, qui a vécu de 1666 à 1728 et qui est l'auteur, pour sa part, d'un Rongo-cho, c'est-à-dire donc un examen critique du Lun Yu, qui date donc de 1737. Alors, ces exégètes japonais, ces deux noms en particulier qui figurent parmi les penseurs les plus importants de leur temps et qui ont été en cela suivis d'une longue tradition d'exégèse critique japonaise jusqu'à aujourd'hui, ces exégètes attirent l'attention sur la distinction qui est à faire, selon eux, entre les deux grandes parties du Lun Yu, qu'ils partagent donc en deux moitiés égales, de 10 chapitres chacune. Donc, vous avez J'ai beaucoup de mal à retrouver ma flèche chaque fois, oui. Donc, vous avez donc une première partie qu'on appelle le Shang Lun, hein, c'est-à-dire donc, on pourrait dire la partie supérieure, et une deuxième partie donc, qui est selon eux plus tardive, le Xia Lun, hein, c'est-à-dire donc la partie littéralement inférieure. Hein. Alors, je rappelle à ce propos que dans la tradition chinoise, les différentes parties d'un ouvrage sont désignées de cette manière. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un ouvrage en deux parties, on parle du volume Shang et du volume Xia, c'est-à-dire donc le volume supérieur et le volume inférieur. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout le chinois, vous remarquerez que Shang indique donc ce qui est au-dessus donc, de la surface et le Xia, c'est ce qui est, indique ce qui est au-dessous de la surface. Et quand vous avez un ouvrage en trois parties, on distingue donc la partie supérieure Shang, la partie médiane Zhong, hein, Zhong, caractère sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention, donc ce qui figure une cible partagée en son milieu par une flèche, Zhong qui désigne actuellement donc la Chine, le pays du milieu, hein, et donc la troisième partie sera désignée comme la partie donc inférieure Xia. Donc ce travail de stratification, donc là pour l'instant, enfin, on est dans une stratification assez sommaire. Il s'agit simplement donc de distinguer deux grandes parties dans le Lun Yu. Alors cette stratification a été poursuivie et affinée à peu près un demi-siècle plus tard par le grand philologue chinois de l'époque Qing, c'est-à-dire de l'époque Manchu, ce grand philologue qui s'appelle donc Cui Shu, que vous avez ici, si j'arrive à retrouver ma flèche, donc Cui Shu ici, qui a vécu donc de 1740 à 1816. Et donc ce travail de stratification et d'analyse, il l'entreprend dans ce qu'on pourrait considérer comme l'œuvre de sa vie, commencée en 1783, le Kao Xin Lu. Alors, ce titre, on peut le traduire très littéralement par le Lu, c'est-à-dire donc des notes qui partent donc d'un kraus, c'est-à-dire donc d'une lecture critique des textes, pour parvenir à shin, c'est-à-dire à une relation véridique, shin, c'est-à-dire digne de confiance, une relation véridique du passé. Alors, ce titre, je propose une traduction vraiment très, très libre, on pourrait le traduire par donc l'Antiquité, hein, passée au crible de l'examen philologique. Donc, en cela, Cui-shu est véritablement représentatif, hein, d'un courant qui s'est développé précisément à l'époque manchoue, sous les Qing, donc la dynastie des Qing, et qu'on a appelé justement en fait le courant d'examen philologique des textes. Après, justement, le grand développement, on pourrait dire, de commentaires d'ordre plutôt philosophique sur les textes, on revient donc à partir des 17e, 18e siècles à donc un examen plus philologique. Alors, l'un des 12 traités qui ont fini par constituer ce Kao Xin Lu est consacré donc à la vie et à l'œuvre de Confucius. Et selon l'étude philologique extrêmement minutieuse de Cui-shu, les 10 premiers livres du Lunyu, autrement dit ce que les exégètes japonais appellent le Shanglun, c'est-à-dire la première partie, la première moitié du Lunyu, ces 10 premiers livres constitueraient donc une sorte de noyau originel auquel viendraient s'ajouter les 5 livres suivants, c'est-à-dire donc les livres 11 à 15. Alors que donc les 5 derniers livres, c'est-à-dire 16 à 20, sont pour Cui-shu bien postérieurs donc au reste de l'ouvrage. Alors, je me rends compte que j'ai une terminologie un peu flottante, hein, je parle tantôt de chapitres, tantôt de livres, hein, mais c'est en tout cas ce que, donc, dans la terminologie chinoise, on désigne par les pian, hein, c'est-à-dire donc ces grands agrégats de sections, hein, et ces pian, on en compte 20 donc dans la dans l'édition transmise, c'est-à-dire dans le textus receptus dont je parlais tout à l'heure, hein. Donc certains commentateurs parlent de livres, hein, ou d'autres parlent de chapitres, hein. Mais toujours est-il que pour répondre à une question qui m'a été posée en fin de cours la semaine dernière, donc dans la convention occidentale, ces chapitres ou livres sont numérotés avec des chiffres romains, alors que les sections ou fragments à l'intérieur donc de ces livres ou chapitres sont numérotés donc avec des chiffres arabes. Alors, dans son souci de réexaminer les sources antiques à la lumière d'une philologie extrêmement rigoureuse, Cui-shu apparaît dès donc le XVIIIe siècle comme le précurseur d'un courant important de l'historiographie moderne au début du XXe siècle. Alors, il s'agit de ce courant qu'on a résumé donc dans cette formule, le courant qui littéralement jette le doute sur l'Antiquité. En chinois, yi gu, c'est-à-dire donc qui met en doute, hein, les sources anciennes, c'est-à-dire donc qui pratique en fait une sorte de doute méthodologique sur donc les sources, hein, même de la plus haute antiquité. Et on pourrait même dire que pour ce courant d'historiens, plus les sources sont réputées anciennes et plus elles doivent être soumises justement à ce doute méthodologique. Alors bien sûr, il s'agit d'une démarche quand même extrêmement révolutionnaire par rapport justement à tout ce que la tradition a véhiculé hein, et qui a toujours considéré que les sources anciennes étaient justement en fait vénérables de, par leur simple antiquité. Alors ce courant Yigu, ou donc de doute méthodique hein, sur les sources anciennes, est éminemment représenté par cet historien nommé donc Ku Jiegang, qui a vécu donc de 1893 et qui est mort donc à l'âge un âge très avancé, donc en 1980, et qui est l'éditeur en chef d'une série extrêmement connue en Chine et à laquelle on fait encore référence maintenant. Une série de 7 volumes collectifs donc, où apparaissent des textes de différents historiens intitulés donc le Gushi Bian, hein, c'est-à-dire donc discussion ou débat hein, sur le Gushi, c'est-à-dire l'histoire ancienne ou l'histoire de l'Antiquité. Ces 7 volumes sont parus donc entre 1926 et 1941. Vous remarquerez que ces historiens étaient si assidus à la tâche que même le début du conflit sino-japonais, là, en 1937, ne les a pas arrêtés. Alors, l'idée donc d'une composition du Lunyu par stratification est ensuite reprise au XXe siècle et introduite dans la sinologie occidentale moderne et notamment anglo-américaine par Arthur Whaley. Le grand sinologue britannique qui a vécu de 1889 à 1966 et que nous avons eu l'occasion d'évoquer l'année dernière. Alors, dans l'introduction à sa fameuse traduction du Lunyu en anglais, The Analects of Confucius, daté de 1938, Arthur Whaley lance l'idée d'un noyau dur hein, de ce qu'il appelle des core books, hein, c'est-à-dire donc des livres ou chapitres core, c'est-à-dire donc qui forment un noyau dur central. Et selon lui, les livres ou chapitres 3 à 9 représenteraient donc ce noyau dur, c'est-à-dire donc ce qu'il appelle the oldest stratum, hein, c'est-à-dire la strate la plus ancienne. Donc là, vous voyez que nous avons déjà une sorte de sophistication. Hein, supplémentaire par rapport donc à la thèse des deux moitiés du Lunyu, hein, donc qui était répartie également donc entre les 10 premiers livres et les 10 derniers. Alors pour Arthur Whaley, il y aurait donc un noyau central qui serait représenté par ces livres 3 à 9. Alors, la théorie de la stratification connaît ensuite des affinements progressifs supplémentaires. Dans les années 1990, on parle non plus donc de deux grandes parties, de deux grandes moitiés, on ne parle plus simplement donc d'un noyau central, on parle carrément de quatre strates donc, à distinguer dans les 20 chapitres du Le Yu. Selon donc un certain nombre de critères que je résume, inutile de vous dire que là je ne vous fais qu'un résumé extrêmement sommaire de toutes les discussions et pinailleries donc en tout genre donc qui ont entouré cette théorie de la stratification. Alors parmi ces critères figure par exemple donc la longueur des sections. On a cru remarquer que, par exemple, dans les parties qu'on considère les plus tardives, les sections ont tendance à être plus longues. Un autre critère est la façon aussi dont Confucius est désigné. Dans la plupart des sections, il est désigné tout simplement sous l'appellation zi, c'est-à-dire le maître. Beaucoup de sections dans le Le Yu, comme vous le savez maintenant, commencent par la formule canonique Ziyue, c'est-à-dire donc le maître dit. Mais il y a également des sections où il est désigné sous l'appellation Krongzi, c'est-à-dire maître Krong. Parmi les tenants de la théorie de la stratification, il semblerait que les sections où Confucius est désigné comme maître Krong seraient plus tardives, selon eux, que les autres sections où il est simplement désigné comme maître. Un autre critère, c'est aussi l'habitude ou non de recourir donc à des énumérations ou des listes. Par exemple, vous avez dans les derniers chapitres, les chapitres 19, 20, des listes du genre le maître respectait les quatre vertus. Alors ensuite, vous avez la liste des quatre vertus et préconisait d'éliminer les cinq vices. Et vous avez donc ensuite la liste des cinq vices. Soit dit entre nous, cette habitude de parler en termes de justement numérologique de quatre vertus, cinq vices, on la retrouve encore dans le discours de propagande du Parti communiste chinois, où vous avez donc les pendant la Révolution culturelle, on parlait donc des quatre vieilleries de l'ancienne société, les studio, etc. Enfin, donc c'est une habitude qui est restée donc ancrée donc dans la rhétorique chinoise. Mais il semblerait donc pour les théoriciens de la stratification que cette habitude d'introduire des listes soit d'origine tardive. Je vous ai signalé ici donc sur cette liste le nom donc d'un sinologue américain qui s'appelle donc Stephen Van Zuren et qui est l'auteur donc d'un livre qui ne manque vraiment pas d'intérêt. Là aussi j'ai toujours beaucoup de mal à retrouver ma flèche. Enfin, vous voyez donc le nom de Stephen Van Zuren, auteur de cet ouvrage qui s'intitule donc Poetry and Personality, Reading, Exegesis and Hermeneutics in Traditional China. C'est-à-dire donc poésie et personnalité, lecture, exégèse et herméneutique dans la Chine traditionnelle. Donc un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Stanford, aux États-Unis, en 1991. Alors, dans cet ouvrage, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir à un autre propos, Van Zuren donc, distingue précisément quatre strates dans le texte du Le Yu. Alors, inutile de noter le détail, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée du degré de sophistication auquel on est arrivé donc dans les années 1990. Alors, selon lui, la première strate, c'est-à-dire la plus ancienne, hein, qui correspond donc aux core books ou core chapters dont parlait Arthur Whaley, c'est-à-dire des livres, comment dire, noyaux durs, il y aurait donc les livres 3, 4, 5, 6, 7. La deuxième strate correspondrait aux chapitres 1, 2, 8, 9. La troisième strate aux chapitres 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et la quatrième strate, donc la plus tardive selon Van Zuren, donc, serait les cinq derniers chapitres 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, cette idée des quatre strates est reprise par les auteurs que vous voyez, parce que j'arrive vraiment plus à retrouver ma flèche, donc les auteurs que vous voyez en bas donc de cette liste, à savoir donc ce sont des Américains également, Bruce Brooks et Tycho Brooks, donc c'est un couple. Qui est l'auteur donc de cet ouvrage intitulé The Original Analects. Donc le titre vous indique déjà le programme, hein, de cet ouvrage. Alors ce sont donc les Analects, les entretiens originaux ou originels, hein, les entretiens vraiment tels qu'ils étaient à l'origine. C'est un ouvrage qui a été publié à New York par les presses universitaires de Columbia en 1998. Alors, à l'issue d'un véritable travail de fourmi, les Brookses, comme on a fini par les appeler, proposent une théorie qui permet, selon eux, de rendre compte de la composition du lunyu pris dans son entier. Et cette théorie, ils l'ont appelée, là, c'est le terme que vous voyez en bas de la page, donc la accretion theory. C'est-à-dire, si on essaye de traduire en français par un mot horrible, la théorie incrémentielle, je ne sais même pas si on peut dire ça, la théorie incrémentielle ou, en termes un peu plus moins barbares, la théorie, disons, cumulative. Alors, les Brookses distinguent donc quatre strates d'époques différentes qui débouchent sur ce qu'ils appellent donc une accretional four-stratum hypothesis, hein, c'est-à-dire une hypothèse incrémentielle à quatre strates. Alors, donc, leur idée force, c'est que le texte du lunyu s'est donc constitué par accretion, par incrémentation ou accumulation, à la manière donc d'un récif de corail, hein, ou à la manière donc des cercles d'un tronc d'arbre, hein, dans un processus cumulatif linéaire et régulier. Alors, c'est ainsi que les Brookses peuvent calculer donc une augmentation d'un chapitre par couche, ce qui fait, sur une période d'incrémentation ou d'accumulation donc de 230 années, hein, parce que les Brookses décident que ce processus cumulatif s'est joué entre donc la mort de Confucius, située traditionnellement en 479 avant l'ère chrétienne, et 249 avant l'ère chrétienne. Alors pourquoi 249 ? C'est que 249, c'est la date de la conquête du pays de l'eau, avec donc la destruction à la clé donc de l'école de Lu, c'est-à-dire le pays natal de Confucius, donc la destruction de l'école de Confucius. C'est pour ça que, pour eux, cette période d'incrémentation devrait se jouer donc entre 479 et 249, c'est-à-dire sur un peu plus de deux siècles. Alors, si leur calcul est bon, ça nous fait une moyenne de 12,7 années par chapitre, soit deux chapitres par génération. Alors, je vous laisse imaginer le travail de Romain, si on peut dire, qu'a représenté donc cette recherche des Brookses. Alors, évidemment, on ne peut que s'incliner devant autant de patience et d'acharnement, mais j'ai le regret de vous dire que leur méthodologie et leur hypothèse ont été jugées totalement improbables par bon nombre de commentateurs, à commencer par leurs propres collègues américains, qui n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Alors, donc, selon ces critiques, premièrement, les textes ne se développent pas nécessairement de manière continue à la façon du corail ou des arbres, c'est ce que nous allons voir. Et d'autre part, il est peu probable aussi que ce processus ait continué jusqu'au milieu donc, du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, sans que les débats de l'époque des royaumes combattants, c'est-à-dire des IVe, IIIe siècles, trouvent un quelconque écho dans le Lu. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Bon. Alors, en somme, si vous avez eu la patience de me suivre jusqu'ici, donc, cette conception cumulative qui trouve son comble, son paroxysme, on pourrait dire, dans la théorie incrémentielle ou accretional des Brookses, présuppose de toute façon une forme de continuité entre la parole vivante originelle de Confucius et ce qu'on peut lire dans le Textus Receptus du Lu. Alors, c'est précisément cette continuité qui constitue donc le présupposé de base de toute la tradition chinoise, comme je l'ai dit, et même les historiens les plus critiques de la période moderne continue à vivre sur l'idée qu'une fois qu'on aura ôté une par une les couches de sédimentation, comme si on pelait un oignon, pelure après pelure, il reste quand même cette conviction qu'on va pouvoir retrouver donc, entre guillemets, le vrai Confucius. À ce titre, donc, l'ouvrage des Brookses dit bien ce qu'il veut dire. Il s'agit donc de retrouver, comment dire, après avoir dégagé les diverses strates accumulées pendant les deux siècles après la mort de Confucius, de retrouver ce que les Allemands appellent le Urtext, c'est-à-dire donc le texte originel du Lu. Alors, dans le même esprit, dès les années 1920, et là j'en reviens donc à cet historien chinois que j'ai nommé tout à l'heure, donc Gu Jiekang, praticien donc du doute méthodique sur les sources anciennes, même cet historien qui pratique le doute total, est l'auteur donc en 1927 d'un article qui s'intitulait donc Chunqiu Shidai de Kongzi He Handai de Kongzi, c'est-à-dire donc le Confucius des printemps et automnes, hein, c'est-à-dire de la période pré-impériale, et le Confucius des Han. Alors, dans cet article tout à fait fondateur, Ku Jiegang étudiait déjà, donc, de manière historique et critique, la transformation de l'image de Confucius entre donc la période pré-impériale et l'époque Han. Mais malgré cela, il maintenait implicitement le présupposé que sous cette image changeante et évolutive, il devait bien y avoir un Confucius historique qu'il était possible de retrouver, justement en notant enfin, toute cette sédimentation donc, de la tradition exégétique. Et c'est donc l'esprit donc, de Ku Jiegang que retrouvent nos historiens contemporains et nos historiens chinois contemporains, et parmi eux, donc, l'historien Li Ling, ce professeur donc, de l'université de Pékin, donc au département d'histoire, de Peida, comme on l'appelle, Li Ling, dont nous avons parlé au tout début de ce cycle de cours et qui a fait très grand bruit. Décidément, cette flèche a du... Oui, voilà. Donc, cet ouvrage, daté de 2007, donc tout à fait récent, qui a fait très grand bruit par son titre délibérément provocateur. Il s'agit donc de « Sang Jiago, Wo Du Lun Yu ». Donc, « Sang Jiago », c'est-à-dire donc littéralement un chien qui a perdu sa famille. On pourrait dire donc un chien errant sans famille. Et ce qu'il y a de provocateur dans ce titre, c'est que l'image du chien errant s'applique à Confucius lui-même. Alors, bien sûr, tollé donc chez les néo-conservateurs culturels chinois, on pourrait dire les néo-confucéens fondamentalistes chinois. Hein, comment ose-t-on comparer donc Confucius à un chien errant ? Mais comme nous l'avons vu, l'historien Li Ling se défend en disant que cette comparaison, c'est pas lui qui l'a inventée, elle se trouve tout simplement donc dans le Shiji, c'est-à-dire les annales historiques de Sima Qian, donc sur lesquelles nous allons revenir largement, hein, c'est-à-dire ces premières annales historiques qui ont été composées donc à la fin du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Et le sous-titre donc de cet ouvrage de Li Ling, c'est Wo Du Lun Yu, c'est-à-dire donc comment moi je lis le Lun Yu, hein, ma lecture personnelle donc du Lun Yu. Alors même pour donc quelqu'un comme Li Ling, hein, qui est prêt justement à reprendre un certain esprit iconoclaste, hein, présent, disons, dans la culture chinoise depuis un siècle, c'est-à-dire depuis le mouvement du 4 mai 1919, hein, et qui a été évidemment encore accentué pendant la Révolution culturelle, hein, même pour un iconoclaste comme Li Ling, hein, il s'agit malgré tout de retrouver le vrai Confucius, hein, à telle enseigne que Li Ling a donné une suite à son ouvrage provocateur, donc, dès l'année suivante, donc en 2008, il a publié donc cet autre volume qui s'intitule « Qu sheng nai de zhen kongzi », c'est-à-dire donc une fois que vous avez enlevé le sage, hein, l'image du sage suprême, nai de, à ce moment-là, vous obtenez donc le zhen kongzi, c'est-à-dire donc le vrai Confucius. Donc là, vous voyez que cette idée qu'il est malgré tout possible de retrouver le Urtext du Lun Yu et le vrai Confucius, justement sous cette immense sédimentation, c'est quelque chose qui est encore maintenu à l'heure actuelle. Mais comme nous allons le voir, même cette hypothèse de base est aussi remise en question par ce que nous avons appelé il y a quelques semaines donc le mouvement des déconstructeurs. Alors, curieusement, on a l'impression que ce n'est finalement que récemment que l'histoire du texte du Lun Yu a fait l'objet de recherches poussées. Je parle donc d'une sorte d'analyse ou de démontage du texte du Lun Yu pièce par pièce. Ce travail-là, en fait, est quand même relativement récent. Et là, je suis obligée donc de citer mon maître. Enfin, je suis obligée, c'est un honneur et un plaisir pour moi de citer mon maître de Shanghai, donc de l'université Fudan, où j'ai eu la très grande chance donc de suivre son enseignement en tant que titz, et non pas, c'est-à-dire en tant que véritable disciple, puisque en fait j'ai pendant un an bénéficié d'un enseignement seul à seul avec lui. J'étais son unique titz pendant un an, et non pas simplement comme Menlun, parce que maintenant ce maître qui s'appelle donc Zhu Weizheng, que vous avez donc en haut de la page, parle devant des amphithéâtres qui sont au moins aussi grands que le nôtre ici. Donc maintenant, il n'a que des Menlun. Mais à l'époque, donc, j'ai en tant que titz bénéficié de son enseignement, et dans un article daté de 1987 intitulé donc Lish de Krongzi, U Krongzi de Lish. Alors là, vous voyez le jeu de mots. Donc le Confucius de l'histoire et l'histoire de Confucius. Donc dans cet article, Zhu Weizheng estime donc qu'il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne, alors à l'exception très remarquable de Cui Shu, dont je parlais tout à l'heure, donc Cui Shu qui écrivait sous les Qing à l'époque Manchu, donc au XVIIIe siècle. Donc il n'y a pas d'équivalent en Chine avant l'ère moderne, des recherches menées par les spécialistes européens et notamment les théologiens protestants allemands sur la Bible. Alors, que ce soit sur l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc, ces théologiens protestants allemands qui sont actuellement représentés ici même au collège par mon excellent collègue Thomas Römer, dont certains d'entre vous suivent peut-être les cours. Donc, ces théologiens allemands donc, ont commencé au XIXe siècle une tradition donc, d'exégèse critique de la Bible. Et pour mon maître Zhu Weizheng, il faut se rendre à l'évidence que ce travail-là n'a véritablement commencé à être fait concernant donc les sources canoniques anciennes chinoises, le Lun Yu en particulier, qu'à une date très très récente. Et c'est un travail qui doit viser donc à établir la datation et l'auteur donc présumé de chaque livre ou chapitre, voire de chaque section. Donc là, il s'agit de procéder à un véritable travail de démontage du texte. Alors, je ne suis pas peu fière donc, de rappeler que mon maître Zhu Weizheng a été parmi les, enfin probablement hein, le premier donc chercheur à donc y aller très fort, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression, en émettant l'hypothèse que le Lunyu, donc les entretiens, sont en réalité donc une compilation d'époque Han. C'est-à-dire donc de, qui date des Han occidentaux, hein, autrement dit, qui ne serait pas antérieur donc au IIe siècle avant l'ère chrétienne, hein, alors que la tradition avait toujours dit qu'on pouvait remonter donc jusqu'à Confucius, c'est-à-dire jusqu'au Ve siècle avant Jésus-Christ. Hein. Et Zhu Weizheng donc est suivi en cela par donc un sinologue qui n'est pas véritablement anglo-américain, mais qui est anglophone quand même, puisqu'il est australien. Il s'agit donc de John Makem, donc le deuxième nom sur cette page, hein, qui reprend cette thèse donc en 1996, 10 ans plus tard, dans un article intitulé « The Formation of Lunyu as a Book », c'est-à-dire donc la formation ou la, oui, la constitution du Lunyu en tant que livre. Et donc, pour Makem, cette composition du Lunyu en tant que livre n'est pas antérieure à 150 avant Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire donc nous sommes bien au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, vous voyez que, disons, la tendance déconstructionniste actuelle hein, s'attaque frontalement donc à la thèse incrémentielle, la thèse cumulative, qui nous a occupés aujourd'hui hein, et qui donc est poussée à ses extrémités par ce que j'ai appelé il y a quelques semaines donc l'argument révisionniste. Enfin, ce mot révisionniste, je précise que ce n'est pas le terme que j'ai choisi. C'est le terme que les tenants de ce courant ont choisi eux-mêmes. Alors j'ai bien essayé de leur dire que c'était, notamment dans le contexte européen, assez malheureux. Hein, c'est un terme relativement malvenu. Hein, mais il s'agit en fait de revoir, d'une révision, comment dire, radicale, justement, de la vision traditionnelle qui, elle, est d'ordre cumulatif ou continu. Et pour ces tenants de la thèse révisionniste, le Lunyu est tout simplement donc une compilation des Han occidentaux, et non seulement cela, mais en tant que compilation qui date des Han, elle reflète donc la rhétorique et les préoccupations justement des Han, et non pas du tout donc d'un quelconque Confucius. Alors nous en arrivons, et nous finirons là-dessus aujourd'hui, donc à quelques conclusions provisoires, hein, mais qui relancent totalement le débat, c'est-à-dire que d'une part vous voyez d'après tous les noms que j'ai cités, que le débat sur la datation du Lunyu, que on pourrait croire ne concerner qu'un petit cercle restreint de spécialistes pinailleurs, ce débat est devenu un débat globalisé, qui nous emmène donc de Chine au Japon, en passant par les États-Unis, l'Australie, etc. Bien. Alors, c'est surtout un débat qui est devenu fortement idéologique, car il déchaîne les passions dans le contexte brûlant du retour de Confucius en Chine continentale. Donc ce phénomène de société qui nous occupe déjà depuis quelques années. Et donc, dans ce contexte, la datation du Lu comme texte est devenue un enjeu éminemment idéologique. Puisque, d'un côté, vous avez, d'une certaine manière, on pourrait dire les nationalistes culturels, ou ce que j'ai appelé les fondamentalistes néo-confucéens, qui défendent donc l'idée d'un Lu comme texte sacré, qui existe dès l'Antiquité pré-impériale, puisqu'il est censé rapporter donc les propos de Confucius, et qui a donc ce statut de texte fondateur de toute la civilisation chinoise. Et puis, alors, de l'autre, vous avez des historiens critiques, alors des historiens chinois qui, comme je l'ai dit, se réclament de l'esprit iconoclaste du 4 mai 1919. Alors, vous avez dans cette lignée ceux que j'ai cités, donc Li Ling ou Zhu Weizheng, mais aussi donc des historiens occidentaux parmi lesquels on compte justement beaucoup de sinologues anglophones. Alors, tous ces historiens tendent maintenant à pencher pour une datation beaucoup plus tardive, c'est-à-dire à dater le Yu comme texte des Han occidentaux, c'est-à-dire du début de l'ère impériale, et qui, en tant que tel, reflèterait donc le souci de la nouvelle idéologie centralisatrice des Han, de s'appuyer sur une icône unique et elle-même centrale, à savoir donc celle de Confucius. Et alors, je terminerai aujourd'hui sur cette question qui va nous tarauder jusqu'à la semaine prochaine, c'est-à-dire, est-ce que finalement le Yu et pourquoi pas Confucius lui-même serait tout bonnement et simplement une invention des Han, auquel cas cela voudrait dire que le processus d'invention ne date ni d'aujourd'hui, ni même d'hier, ni même d'avant-hier, mais de toujours. Merci de votre attention.